Radio Kapi.
Le journal Pascal Masirika.
À la une de l'actualité ce midi, coup d'envoi hier mercredi de l'asphaltage des tronçons routiers Kassindi, Beni, Butembo, Bunagana, Rutshuru et Goma au Nord Kivu. La cérémonie a été co-présidée par les chefs de l'État congolais et ougandais. L'importance de ces tronçons dans ce journal. Des groupes armés ont continué d'opérer impunément dans l'est de la RDC. C'est ce que révèle le rapport final d'experts des Nations Unies sur la RDC envoyé au Conseil de sécurité des Nations Unies après une enquête menée entre le 20 juillet 2020 et avril 2021. Notre invité, c'est le président du caucus de députés de Beni au Nord Kivu, Paul Muhindo, parle des attentes des habitants en ce moment où le président Félix Tshisekedi Tshilombo est en visite dans la région. Madame, messieurs, bonjour. Le président congolais et ougandais ont lancé mercredi après-midi les travaux d'asphaltage des axes routiers Kassindi, Butembo, Beni, Bunagana, Rutshuru, Goma au Nord Kivu. C'était au cours d'une double cérémonie qui s'est déroulée à Mpondwe côté ougandais, puis à Kassindi Lubiria côté congolais. À Beni, Martial Papi Mukeba explique l'importance économique et sécuritaire de ce tronçon.
L'axe routier Kassindi-Beni-Butembo est long de 139 km. Elle ouvre la voie à l'Afrique de l'Est et à l'océan Indien à partir de Kassindi-Lubiria. C'est cette frontière congolaise jumelle à la ville ougandaise de Pondwe qui est le point d'entrée de plusieurs marchandises dans le Nord Kivu, l'Ituri et la Tchopo. C'est également le point de sortie du cacao, café, papaïne, vanille et bois exportés à partir de Beni-Butembo et Lubero. C'est le cas aussi pour la route Bunagana-Goma, longue de 89 km. Jean-Pierre Massala, ambassadeur de la RDC en Ouganda.
La réalisation de ce projet va booster l'économie de la région. Parce que là où un homme d'affaires pouvait prendre un véhicule, faire 4 à 5 jours de chez nous pour arriver au port de Mombasa, avec la construction de ces routes macadamisées, pourra nous permettre de le faire juste en 2 jours. Et vous connaissez l'influence et l'impact que cela peut avoir sur le coût.
Sur le plan sécuritaire, ces routes vont permettre une meilleure traque des hommes armés, signalant que ce projet est financé à 60% par l'entreprise indienne Dot Services Limited basée en Ouganda, 20% par la RDC et 20% par l'Ouganda. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Kapi.
En plus bref, le président de la République poursuit son séjour à Beni où il est arrivé mardi dernier. Ce jeudi matin, Félix Tshisekedi Tshilombo a entamé des consultations avec les différentes couches de la population à l'hôtel Albertine où il a installé sa résidence provisoire. Selon nos sources, ces consultations portent notamment sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la région, caractérisée par la multiplication des attaques des rebelles ougandais de l'ADF. Juste après ces consultations, le chef de l'État se rendra dans la ville voisine de Butembo où il est attendu aujourd'hui. Sauf changement de dernière minute, le chef de l'État est attendu cet après-midi à Bounia. Des partisans, des partis politiques, membres de l'Union sacrée pour la nation et certains habitants se dirigent d'ores et déjà vers l'aéroport national de Murungo pour l'accueillir. Parmi les attentes de la population, il y a la concrétisation de ses promesses électorales sur la sécurité, les infrastructures et l'emploi de jeunes. Pour en parler, retrouvons depuis l'aéroport de Bounia notre envoyé spécial, Martial Kizabiamungu.
Ce matin, Bounia s'est réveillé comme d'habitude malgré l'annonce de l'arrivée du chef de l'État dans la ville. Pas grand changement hormis quelques éléments de l'ordre visibles dans certains ronds-points au centre-ville. À l'aéroport national de Murungo, des sympathisants de l'Union sacrée pour la nation arrivent progressivement. Selon nos informations, le chef de l'État devrait arriver à Bounia cet après-midi en provenance de Beni-Butembo au Nord Kivu où il séjourne depuis quelques jours. Il arrive à Ituri dans un contexte particulier celui de l'état de siège. L'Ituri est en effet confronté à une insécurité persistante suite à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers dans les quatre territoires, Irumu, Djougou, Mahagi et Mambasa. Les habitants de Bounia nourrissent beaucoup d'attentes de cette visite du président de la République. D'abord, l'éradication des groupes armés. Ensuite, l'asphaltage de la route nationale numéro 27 Bounia-Goli, comme Félix-Antoine Tshisekedi l'avait promis en 2019 lors de son dernier séjour dans cette province. Pour le moment, aucun détail n'a filtré sur les programmes du séjour du chef de l'État à Bounia. Depuis l'aéroport de Murongo à Bounia, Martial Kizabiamunku, Radio Okapi.
Autre nouvelle, des groupes armés ont continué d'opérer en toute impunité dans l'est de la RDC. C'est ce qu'affirme en tout cas le rapport final d'experts des Nations Unies sur la RDC envoyé au président du Conseil de sécurité depuis le 10 juin 2021. Ce rapport est le résultat d'une série d'enquêtes qui ont été menées par ces experts internationaux pendant la période comprise entre le 20 juillet 2020, date de leur désignation par le secrétaire général de l'ONU et avril 2021. Explication avec vous, Honoré Missenga Kalala.
Ce rapport porte sur les conflits armés et leurs conséquences dans trois provinces de l'est du pays, le Nord Kivu, l'Ituri et le Sud Kivu. La population civile de ces provinces a continué de subir des actes de violence pendant toute cette période, au point qu'elle a dû manifester son désespoir en partie par des émeutes et des manifestations contre la MONUSCO, la communauté internationale et les autorités congolaises, affirment les experts dans ce document. Au Nord Kivu, notamment, ces experts rapportent que malgré les opérations menées par les FARDC pendant cette période, les forces démocratiques alliées ougandaises ADF se sont reconstituées et ont intensifié leurs attaques en recourant davantage à des engins explosifs improvisés contre l'armée congolaise et les civils. Du côté de l'Ituri, les experts internationaux mentionnent entre autres l'absence de progrès vers un processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration concernant les factions des CODECO. Ce qui a concouru, note-t-il, à la dégradation graduelle de la situation humanitaire et de la sécurité dans le territoire de Djougou.
Merci Honoré Missenga Kalala pour ces précisions. Et puis le parti politique Union pour la Nation Congolaise, UNC, entend lever des options conformes à la loi en vue d'un partenariat politique qu'il mènera à obtenir à tout prix la libération de son président national, Vital Kamerhe. C'est dans cette optique que la direction politique de l'UNC recommande aux gestionnaires du parti de s'engager résolument dans cette voie. Ceci est contenu dans une déclaration publiée hier mercredi à l'issue d'une réunion extraordinaire convoquée au lendemain du jugement en appel condamnant son leader à 13 ans de travaux forcés, Billy Valutumba.
Dans ses déclarations, l'UNC manifeste son regret dans ce qui transparaît comme insouciance du président de la République, malgré des appels incessants auprès de lui pour que Vital Kamerhe bénéficie d'un procès équitable. Ceci partant de ses prérogatives en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Billy Kambale, secrétaire général UNC.
Nous devons d'abord nous dire des vérités en face. Il y a un complot contre notre chef que nous ne pouvons jamais accepter. À Nairobi, nous avons signé un accord devant le monde entier. Quel est devenu cet accord ?
On ne peut pas sacrifier un leader comme Vital Kamerhe pour des besoins de calculs politiciens.
Qu'on nous libère notre chef.
Qualifiant le verdict en appel d'inique et injuste et en attendant l'aboutissement des discussions à l'interne, l'UNC demande aux élus du parti à tous les niveaux de suspendre leur participation aux activités politiques du CASH et de l'Union Sacrée.
Nous sommes un parti né de la résistance. Ces unions qui se conçoivent à tout bout de champ sont des plateformes circonstancielles qui peuvent basculer à tout moment. Pour nous, l'essentiel, c'est que notre chef quitte cet état des choses.
Signalant que cette réunion de mercredi a rassemblé presque toute la crème de l'UNC occupant des fonctions à la présidence, au gouvernement, à l'Assemblée nationale et dans les entreprises publiques, tous s'engagent à mener une opposition farouche contre l'injustice.
Et puis, entre la fin de la session parlementaire de mars conformément à l'article 115 de la Constitution et la continuité de la session suite à l'état de siège, en vertu de l'article 144 de la Constitution, la confusion persiste aux deux chambres du Parlement, alors que le Sénat a déjà annoncé la fin de la session. L'Assemblée nationale a par contre décidé de retarder la sienne. Pour dissiper les confusions, le président président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapoanga, a saisi hier mercredi la Cour constitutionnelle. C'est ce que nous raconte Michel Kifinangoy.
Comme dans le fonctionnement normal des institutions, lorsqu'il y a doute sur l'application d'une disposition constitutionnelle, il est naturel que l'on s'adresse à la Cour constitutionnelle, seule compétente dans ce domaine. C'est pourquoi le président Mbosso a saisi la Cour pour s'assurer s'il y avait lieu de clôturer la session comme l'exige l'article 115 de la Constitution ou s'il fallait retarder sa clôture conformément à l'article 144 alinéa 2 et 3. D'après certains parlementaires, si cette saisine de la Cour constitutionnelle était intervenue quelques jours avant le 15 juin, le pays serait épargné des tâtonnements. En effet, alors que l'Assemblée nationale soutient qu'en vertu de l'article 144 de la Constitution, le Parlement ne peut pas aller en vacances pendant l'état de siège, les sénateurs pensent que l'état de siège ne concerne que deux provinces sur le 26, en plus des contraintes budgétaires que peut entraîner la prolongation de la session. Voilà pourquoi le Sénat a opté pour le vote du projet de loi d'habilitation du gouvernement, conformément à l'article 129 de la Constitution.
Revenons un instant au Nord Kivu où une dizaine de victimes de l'accident de circulation survenu au quartier Ndosho une heure seulement après l'éruption volcanique de Nyiragongo se disent abandonnés au centre hospitalier Bethesda de Ndosho. Ils y ont été transférés sur instruction du gouverneur à Goma, Gabriel Wamenya.
Au centre hospitalier Bethesda de la 3e communauté baptiste au centre de l'Afrique, où nous nous sommes rendus, les victimes de l'accident de circulation au niveau du CCLK, dont un enfant de 7 ans, que nous avons vu tous alités, présentaient des signes de malaise profond dus aux lésions et aux inflammations au niveau des jambes et des épaules, mais aussi avec des fractures au niveau du fémur et des clavicules. Ces victimes, dont la thérapie nécessite une longue durée de médication, sollicitent l'intervention des autorités. L'une d'elles explique.
Nous avons connu l'accident en cours de route les jours des volcans. Moi, j'ai été fracturée à l'épaule et à la tête.
Le médecin directeur de cette structure médicale affirme avoir reçu du gouvernement militaire un lot de médicaments et une enveloppe de 1 000 dollars américains, dont du gouvernement central, pour la prise en charge de tous les malades estimés à plus de 400. Par ailleurs, le chef de division provinciale de la santé rassure les factures de la prise en charge des malades et des victimes d'autres dégâts collatéraux seront progressivement payées par les autorités. Docteur Janvier Koubouya.
C'est possible justement qu'il y ait des plaintes dans ce sens-là. Le gouverneur de province lui-même a payé, en tout cas une bonne partie de la facture.
Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Et au Congo central, les agents de santé et les administratifs des hôpitaux publics de la province ont entamé ce jeudi une grève. Ils dénoncent le salaire de misère et la disparité de leur rémunération entre eux et le médecin. Les techniciens de surface de l'hôpital de Kinkanda ont même décidé de ne pas revenir au travail tant que leurs revendications ne sont pas réglées. Il y en a même qui sont mécanisés depuis 2008, mais qui ne sont pas payé. Amatadi n'en a plus riche Mambou.
À l'hôpital provincial de référence de Kinkanda, le désespoir des malades venus ce matin pour la consultation témoigne l'effectivité de cet arrêt de travail. Les infirmières qui étaient des gardes ont refusé de les toucher en attendant la remise reprise avec le médecin. Dans tous les services, de la salle d'urgence en passant par la chirurgie, la maternité, la réanimation, les soins intensifs, les laboratoires et la pédiatrie, seuls le médecin et les médecins stagiaires sont visibles. Les techniciens des surfaces rencontrés sur place parlent des raisons de leur mécontentement.
Salaire était.
On a mis salaire. On avait une prime de risque, mais ils l'ont imputé depuis 2019. Et pourtant, nous faisons un travail à risque. Sans notre présence, l'hôpital ne peut être propre. Nous essuyons les sangs, les urines et les excréments. Et nous nettoyons des toilettes parfois bondées de matières fécales.
Toilettes à la propre. Au 20e année de service. Et le malon est zaté. Nana tongite. Si vous pensez que vous avez un bon salaire, vous avez.
Malgré des cris de détresse fréquents, ces agents de santé expriment leur déception de constater que leur préoccupation et autres cadre et conditions professionnelles des mères précaires. Ils estiment alors que le gros du travail dans des hôpitaux est effectué par eux. Cette fois-là, ils jurent de ne pas reprendre le travail en absence d'une solution à leurs problèmes. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Direction Kasaï Oriental, où les motocyclistes doivent transporter une seule personne sur leurs engins. C'est une des mesures annoncées mercredi soir par le gouverneur intérimaire. D'après Jeannette Longa Moussamba, cette mesure vise à lutter contre la pandémie du coronavirus qui secoue actuellement la province. Les habitants de la ville de Mbujimayi saluent cette décision et promettent de l'appliquer. Esther Ndalafina.
Dans un message diffusé ce jeudi sur la RTNC Mbujimayi concernant le transport en commun, le gouverneur de province intérimaire oblige de transporter un seul client sur les motocyclettes, Jeannette Longa. Demain jeudi, un seul client sur la moto, c'est lui qui ne va pas obtempérer, l'État fera son travail. Protégeons-nous contre cette pandémie. Les motocyclistes concernés par cette mesure promettent pour leur part de respecter la décision de l'autorité, mais souhaitent que les tracasseries diminuent sur les routes.
Ça peut aussi nous épargner contre le grand fléau que nous avons.
Nous sommes prêts à respecter la mesure, mais aussi, il y aura maintenant du désordre. Le policier vous arrive, donnez-moi 500 francs. Quand vous ne donnez pas les 500 francs, vous avez transporté des personnes.
Les clients habitués à se faire transporter à 3 ou à 4 sur une moto par manque de frais de transport acceptent d'obtempérer à la mesure de l'autorité provinciale.
Nous pouvons monter à 2 et que la deuxième personne ou la première a cette maladie-là. Donc, on peut se contaminer comme ça sans les savoir.
C'est une mesure bonne pour que la population ne soit plus contaminée.
Signalons que ces derniers temps, les motocyclistes transportent certains clients, de préférence les jeunes filles, sur les réservoirs de leurs engins, un système appelé Wamuchadi aux clients de ma poitrine. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est attendu ce jeudi après-midi à Abidjan, près de 10 ans après son extradition à La Haye, où il a été acquitté des charges qui pesaient contre lui. L'ancien chef de l'État s'apprête donc à fouler le sol de son pays. Un événement très attendu des pieds fermes par ses partisans. 3h30 d'échange, une rapide poignée de main, des conférences de presse séparées. Le sommet Biden-Poutine s'est déroulé hier mercredi sous les bords du lac Léman à Genève en Suisse. Les échanges ont été constructifs, assurent les deux présidents américains et russes. Les deux dirigeants se sont mis d'accord pour un retour à leurs postes respectifs de leurs ambassadeurs, mais de nombreuses questions restent en suspens.
L'invité.
Notre invité, c'est le président du caucus de députés de la ville et du territoire de Beni au Nord Kivu. Paul Mouindo parle des attentes et des habitants sur la visite du chef de l'État dans la région. Il s'entretient avec Martial Papimukeba.
Honorable Paul Mouindo, bonjour.
Bonjour.
Quelles sont vos attentes après la visite du chef de l'État dans la région de Beni?
Donc, vous savez, on a fait également les territoires de Beni, donc jusqu'à secteur de Rwenzori, où nous venons de le recevoir. Et nous pensons que les attentes pour nous sont vraiment importantes, sont élevées, parce que, vous savez, notre population a besoin de la paix. Et sa visite a réconforté la population parce qu'elle a senti réellement la détermination du chef de l'État de venir de lui-même suivre ce qui se fait. Et nous croyons que cette visite va apporter des nouveaux souffles, n'est-ce pas, à cet état de siège qui est une décision importante et qui doit, n'est-ce pas, permettre à ce que la paix soit une réalité dans cette partie du pays. La fois passée, nous étions ici avec beaucoup de militaires, les chefs d'état-major et tout. On avait lancé des grandes opérations offensives qui ont permis une stabilité dans la ville de Beni. Et nous croyons que ce qui reste, c'est dans les territoires, il faut que les offensives soient totalement lassées et que les renseignements soient totalement poussés. Il est possible, n'est-ce pas, de pouvoir vite rétablir la paix si l'engagement, la détermination et surtout l'évaluation se fait ou se font régulièrement.
Pour vous, il y a beaucoup d'attentes autour de la situation sécuritaire qui prévaut dans les territoires de Beni avec l'activisme du groupe armé ADF.
Bien sûr, nous avons beaucoup d'attentes, mais nous avons l'espoir parce que l'état de siège, c'est déjà un espoir. Comme nous avons déjà la paix dans la ville de Beni, en dehors de récents cas des assassinats auxquels on a observé, nous croyons que les territoires de Béni méritent aussi d'avoir la même paix. Il faut donc qu'on puisse arriver, n'est-ce pas, à matérialiser la volonté du chef de l'État. Le chef de l'État, comme commandant suprême, donne les moyens, il renforce la logistique. Il faut maintenant que l'armée et la population arrivent, n'est-ce pas, à collaborer davantage pour que, n'est-ce pas, la paix soit une réalité. Et là, nous, les civils, nous nous sommes dessaisis de la chose. Maintenant, c'est l'armée. Et nous accompagnons cette armée. Voilà pourquoi nous sommes là, nous échangeons, nous partageons les informations. Nous avons sensibilisé la population pour qu'elle collabore, pour qu'elle participe activement et que l'armée soit totalement réactive face à l'ennemi.
Selon vous, la réussite ou la neutralisation définitive des ADF et la restauration de la paix dans la région de Béni passe aussi par la collaboration entre l'armée et la population?
Bien sûr, ça passe nécessairement par cette collaboration. Parce que vous le savez, les ADF se transforment, ils portent à un moment les tenues militaires. Et puis à un autre moment, ils s'habillent, n'est-ce pas, à tenue civile. Donc il faut que les populations puissent continuer à dénoncer ce qui se cacherait parmi eux. Autant que l'armée doit faire la même chose. Et que les services de renseignement puissent également suivre toutes ces dénonciations qui sont données par la population.
Une façon pour vous d'appeler à l'arrestation de tous les collaborateurs des ADF, que ce soit au sein des FARDC ou au sein de la population?
Bien sûr, il faut à tout prix que ces collaborateurs soient, n'est-ce pas, mis à la disposition de la justice. Et là, il faut éviter l'arbitraire. Parce que vous le savez, il y en a de ceux qui profitent maintenant pour commencer à se régler des comptes. Il faut que cela soit évité. Nous avons besoin que même quand les offensives sont lancées, que l'on puisse capturer ces gens sur le terrain et que leur réseau de ravitaillement soit totalement démantelé.
Le chef de l'État a également lancé les travaux d'asphaltage de la route Kassindi-Béni-Boutembo. Que représente pour vous cette route?
Et c'est une route bénéfique sur le plan sécuritaire parce que une fois qu'elle sera carrossable, elle permettra des interventions rapides. On n'aura pas aussi la sécurité chaque jour. Et donc, ça va aussi avoir un impact sur le développement. Et ça va permettre un accroissement, n'est-ce pas, de transfert de biens entre l'Ouganda et nous. Et donc, et tout au long même de sa construction, ça va absorber une bonne main-d'œuvre. Et nous espérons maintenant que ça ne sera pas un lassement pour le lassement. Il faut que l'entreprise, comme même le chef de l'État l'a dit, que les travaux puissent commencer vite.
Honorable Paul Mouindo, merci.
Merci également.
C'était l'invité de Radio Okapi, le président du caucus des députés de la ville et du territoire de Béni au Nord-Kivu, Paul Mouindo, interviewé par Martial Papimukeba. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté infiniment. Merci à Élisée Chikota Mwamboui qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Pelekipe Lamondo. Retrouvez ce journal sur www.radiokapi.net et sur les différentes plateformes numériques de Radio Okapi.